Alors, d'habitude, vous voyez bien que parlent au séminaire des orateurs que je connais bien d'autre part, et souvent depuis longtemps, hein, de sorte qu'on peut me soupçonner de partialité, de copinage, de tout ce qu'on veut. Quoique, ce n'est pas une grande faveur de parler à mon séminaire, mais enfin, de me débrouiller pour attirer à mon séminaire, etc. Mais là, aujourd'hui, je suis vierge de tout reproche et Monsieur Artiaga me fait le plaisir et l'honneur de parler aujourd'hui. Je lui ai demandé parce que je l'ai entendu parler une fois avec tellement d'intérêt et en regardant ce qu'il avait fait, j'ai trouvé que ça convenait tellement bien, c'était tellement en harmonie avec nos préoccupations de cette année. Que j'ai pensé que ce serait vraiment dommage de nous priver de l'écouter. Monsieur Loïc Artiaga est maître de conférence à l'Université de Limoges, c'est un historien d'histoire contemporaine, mais qui s'est intéressé à la littérature populaire et à l'action, en quelque sorte, auprès du peuple. Et depuis toujours, il avait fait un mémoire de maîtrise, à l'époque, sur les bibliothèques populaires en Haute-Vienne, entre 1865 et 1936. Hein, donc c'est du Limousin, et il a étudié les bibliothèques populaires en Haute-Vienne. Un sujet qui me va droit au cœur, car je m'occupe encore un peu, mais c'est pareil, vous savez, m'occuper de la propriété d'Arsonval, qui appartient au Collège de France en Limousin. Hein, et il y a près de cette propriété une médiathèque tout à fait remarquable, à Meusac. C'est très très bien. Enfin bon, il a fait un DEA sur l'œuvre des bons livres de Bordeaux des origines à la fin des années 1860. Et voyez l'œuvre des bons livres, ce que recouvre cette à la fois ce souci paternaliste et social, si on peut dire. On imagine les grands-mères de François Mauriac travaillant à l'œuvre des bons livres de Bordeaux. Enfin, il a soutenu une thèse de doctorat sur les catholiques et la naissance de la littérature industrielle en France, en Belgique et au Québec de 1830 à 1864. Vous voyez donc tout à fait dans la suite du DEA sur l'œuvre des bons livres, hein, la façon dont le catholicisme cherche à rester présent dans les classes populaires et avoir une action à ce moment-là. Ces articles, ces activités scientifiques, colloques, etc., qui sont extrêmement nombreux, tournent beaucoup autour de ces questions, portent directement quelquefois sur des œuvres de littérature populaire, sur Fantômas ou sur des choses de ce genre. Voilà. Nous allons l'écouter avec particulièrement d'intérêt et d'attention, nous parler des lecteurs du roman populaire au 19e et au 20e siècle.
Bien, je remercie le professeur Michel Zinc d'offrir à mes travaux un nouveau contexte institutionnel pour en diffuser les conclusions. Enfin, mes travaux, la formule n'est pas tout à fait exacte, puisque j'espère ce matin parvenir à rendre intelligibles les conclusions d'un collectif de recherche qui, en réalité, s'épanouit depuis les années 1960 et auquel j'appartiens, et qui a décidé de consacrer ses travaux effectivement aux fictions populaires contemporaines, celles qui naissent au tournant des années 1830-1840 avec Eugène Sue et le roman feuilleton, et qui continuent leur histoire jusqu'à la fin du XXe siècle et aux grands films à grand budget avec beaucoup d'explosions et d'hémoglobine. Alors pourquoi finalement délaisser Saint-Augustin et, dans un contexte académique, se consacrer et parler des livres que précisément tout le monde a lus, et par extension des films, des séries télévisées, pourquoi pas des vidéos virales qui s'échangent sur Internet. Je pense ce matin à une collègue de Limoges qui s'appelait Hélène Constant et qui avait commencé à travailler à partir de la fin des années 60 sur les fictions populaires françaises, celles du 19e siècle, celles de la belle époque du roman, les années 1890-1914, et qui passait pour une originale dans le contexte académique. Et elle m'avait expliqué à plusieurs reprises la volonté militante qui s'était emparée d'elle, utiliser les outils de l'analyse littéraire pour comprendre ce que lisent les gens. Voilà l'objectif qui était le sien et que j'essaie modestement de reprendre à mon compte. Alors aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas le seul, nous sommes assez nombreux en France, en Europe, il y a un ensemble assez hétéroclite de spécialistes de littérature, d'historiens, de sociologues qui désormais se questionnent sur Tintin, sur Rouletabille, sur la science-fiction, au grand désespoir d'ailleurs des lecteurs d'un journal de Limoges qui, après un article qui était consacré à nos travaux, avait envoyé un certain nombre de lettres incendiaires pour expliquer que bah, si les lettres aujourd'hui c'était ça à l'université, il était normal qu'on ne trouve plus d'étudiants dans nos cours. Alors, les perspectives des docteurs SAS et des titulaires des chaires San Antonio oscillent entre un héritage marxiste relativement ancien, puisque dès 1844, dans la Sainte Famille, Marx s'attaquait avec ses armes théoriques au ressort idéologique des Mystères de Paris d'Eugène Sue, et d'un autre côté, le legs de ce qu'on a appelé les cultural studies, et qui se sont épanouis dans les pays anglo-saxons à partir des années 1950, et qui, autour de figures comme Richard Hogarth ou Stuart Hall, ont consacré les pratiques culturelles du peuple comme un objet essentiel pour comprendre les ressorts du contemporain. Alors, ce milieu de recherche me semble particulièrement actif, mais je ne suis pas tout à fait bien placé pour juger. J'en fais partie, donc j'ai envie de dire qu'il est actif. Et il a renouvelé, depuis les années 1990, un certain nombre de ses problématiques. D'abord, par une attention beaucoup plus forte à la grande variété des supports de ses productions pour le peuple. Autrement dit, pas simplement le roman, mais aussi l'affiche, mais aussi le journal, qui, on va le voir, joue un rôle central dans l'essor du roman. Et puis, toutes les formes de cette littérature, la littérature pour la jeunesse, celle qui se destine aux femmes, celle qui est plutôt destinée aux amateurs de sensations fortes, etc., etc. Deuxième forme de renouvellement, ce sont les approches continentales ou transcontinentales. Je prendrai quelques exemples en dehors du cas français, quand ce sera nécessaire ce matin. Et cette nouvelle échelle d'analyse a souvent bousculé des cadres trop nationaux de l'approche littéraire. Et de l'approche historique aussi, hein, de l'époque contemporaine. On travaille beaucoup plus sur des approches voilà, qui s'intéressent à l'Europe ou qui s'intéressent aux connexions entre l'Europe et le reste du monde. Enfin, il y a également une réflexion autour du contexte de production de ces romans et de ce qu'on a nommé la culture médiatique. C'est un terme que l'on a plutôt que l'on utilise plutôt pour le XXe siècle et pour la deuxième moitié du XXe siècle. Et un certain nombre d'historiens se sont mis d'accord pour faire naître en réalité cette culture médiatique dès les années 1830-1840. Ça a permis d'évacuer une aporie, celle du terme même de roman populaire. Qu'est-ce que c'est qu'un roman populaire ? C'est un roman qui parle du peuple, un roman qui vient du peuple, un roman qui se destine au peuple. Vous voyez que la définition finalement est complexe. Donc les historiens ont retenu ce terme, culture médiatique, extrêmement englobant et qui comprend finalement tout ce qui ne relève pas de la culture traditionnelle, tout ce qui ne relève pas de la culture savante et toutes les créations qui sont en fusion avec leur support. On verra que c'est une culture marchandise dont je vais vous parler ce matin et cette question de la matérialité du support est essentielle pour comprendre les grandes ruptures culturelles qui s'amorcent au XIXe siècle. Il y a peut-être aussi la volonté de dessiner une histoire sociale de ces nouvelles formes culturelles, une histoire populaire que je tenterai de vous exposer ce matin. Parler et étudier donc des livres que tout le monde a lus nous pousserait peut-être à produire une autre histoire de la littérature, une contre-histoire, comme on aimait à le dire dans les années 1960, ou plus modestement, à s'interroger sur les mécanismes de ce que Franco Moretti appelle le grand massacre de l'histoire littéraire, ce grand massacre qui fait qu'on ne s'intéresse finalement qu'à un pourcentage très réduit des productions culturelles du passé. Moretti dit 1%, 2%, peut-être un peu plus, mais c'est vrai que quand on regarde ce que l'on a retenu de l'histoire littéraire du début du XXe siècle et que l'on regarde le nombre d'ouvrages produits, entre 10 et 11 000 pour l'année 1913, par exemple, on est frappé d'un décalage qui est un décalage ahurissant, en tout cas si on entend comprendre la société qui a produit ces textes. Il s'agit aussi de s'intéresser, comme je le ferai ce matin, à la lecture, au plaisir qu'elle peut susciter, à son inscription dans les imaginaires sociaux, à la façon dont elle peut négocier avec ces imaginaires sociaux et tenter l'impossible, une histoire littéraire qui se jouerait hors les livres et hors les pages. Alors il m'a semblé utile ce matin, avant de parler de ces romans populaires contemporains, d'expliquer en premier lieu le repli de formes plus anciennes, destinées à une circulation large. Les romans ne sont pas les premières formes culturelles à circuler de façon très large. Je me suis dit qu'un public comme celui du professeur Michel Zinck était peut-être plus intéressé par des formes plus anciennes que celles sur lesquelles je travaille, donc je suis allé aussi loin que je pouvais. Malheureusement, je ne peux pas aller jusqu'au Moyen-Âge. Il me faut l'invention de l'imprimerie pour pouvoir discuter de choses sérieusement.
Vous êtes là pour parler d'autre chose, justement. Le Moyen-Âge, je m'en charge.
D'accord, bon. Bah, je vais parler de ce qui disparaît juste avant l'apparition des formes qui m'intéressent. Je pense ici à la littérature de Cole Portage. Ce détour va aussi me permettre de vous donner quelques repères chronologiques pour cerner la vitesse des transformations qui s'opèrent dans le monde de la culture au XIXe siècle. Alors, le colportage existe évidemment avant la littérature de colportage, puisqu'il existe avant l'invention de l'imprimerie, mais à l'échelle européenne, on constate qu'à la fin de l'époque moderne, on peut acheter, par les réseaux du colportage, dans les régions de langue allemande, des Volksbücher, des Skallingtryck en Suède, des Lubok en Russie, des Pliegos en Espagne, des Chapbooks en Angleterre, autrement dit, de la littérature de colportage. C'est une littérature qui est essentiellement composée d'un canon très stable de textes anciens, en France, les Contes de Perrault, Geneviève de Brabant, Télémaque de Fénelon. Et le déclin de ces imprimés populaires, diffusés par les colporteurs, s'amorce en Angleterre dès le XVIIIe siècle et il est acquis en France au XIXe. Il sera plus tardif pour d'autres pays, je pense à l'Espagne notamment, où ces formes continueront à être distribuées dans le premier XXe siècle, ou au Brésil, où la littérature de Cordel sera un vecteur pour beaucoup de romanciers français. Alors, comme lorsque disparaissent des grandes espèces, en histoire naturelle, on s'interroge sur pourquoi les dinosaures disparaissent il y a 65 millions d'années, pourquoi l'homme de Néandertal disparaît il y a 30 000 ans, pourquoi le colportage disparaît-il au XIXe siècle. Alors, on peut proposer trois hypothèses. La première, c'est l'extension de la société industrielle. Vous avez remarqué les bornes que j'ai fixées, et vous voyez bien qu'elles correspondent aux avancées de cette société nouvelle, qui va gagner de nouveaux secteurs, et qui va aller jusqu'à s'emparer de la culture. En second lieu, on peut estimer que la concurrence de formes nouvelles, le journal, le feuilleton, avec lesquels le colportage est en concurrence, mine le public du colportage. Et puis enfin, on constate un jeu de pression de la part des États-nations, ces États modernes, qui vont, en quelques années, réussir à assécher par la loi, par des modalités de contrôle qui sont nouvelles, ces circuits du colportage. L'exemple type, c'est la création en 1852 de la commission de colportage que décide le Second Empire, qui force ces formes qui se diffusent et qui circulent à travers l'Europe à une estampille et à un contrôle à chaque fois qu'elles rentrent sur un nouveau territoire. Autrement dit, s'il s'agissait de tuer le colportage, c'était la mesure parfaite. Et ça fonctionne. Début des années 1840, 10 millions d'ouvrages qui sont diffusés par les réseaux du colportage en France. Fin des années 1850, 1 million. et puis la forme finira par disparaître. En réalité, ces trois hypothèses se superposent. Et je vais les rassembler dans une même phrase. L'avènement de la société industrielle, soutenu par les États-nations, favorise l'essor d'une culture marchandise nouvelle. En effet, il ne faut pas se méprendre sur la nature du contrôle qui est exercé sur le colportage, puisque, dans le même temps, on constate l'instauration progressive et très inégale de la liberté de la presse en Europe, souvent inscrite dans le marbre des monarchies constitutionnelles, et l'abandon de formes plus anciennes de contrôle, notamment de contrôle préalable, délégué à l'Église. C'est la fin de l'Inquisition au Portugal en 1822 et en 1834 en Espagne. La domination moderne des romans va donc s'accompagner de nouvelles formes d'encadrement, et ici, c'est un encadrement supranational qui va fixer les conditions de la circulation et qui est parachevé en 1886 par un document qui est extrêmement important, qui passe souvent inaperçu dans l'histoire littéraire, c'est la signature de la Convention internationale de la propriété littéraire et artistique. Pourquoi elle est importante, cette convention ? Parce qu'elle permet aux romans de circuler au-delà de ses frontières nationales, alors que l'histoire littéraire a souvent perçu le cadre national comme le cadre premier. Et puis surtout, elle est bâtie sur un modèle qui est très intéressant par rapport aux perspectives que je dessine, c'est celui de la Convention de Paris de 1883 sur la propriété industrielle. Autrement dit, on voit bien comment cette société industrielle s'approprie de nouvelles formes culturelles, mais se les approprie à sa façon, en les pensant avant tout comme des productions industrielles. L'histoire qui s'amorce va donc être celle d'un vaste changement d'échelle, d'abord en termes de circulation, et la production de livres en Allemagne, en France et en Angleterre, qui vont être les principaux foyers ici, va exploser au XIXe siècle, de même qu'explosent les exportations de livres. C'est aussi une lente démocratisation et une rupture anthropologique majeure dans la façon d'appréhender la lecture. Alors, qui sont les premiers lecteurs de ces formes nouvelles ? Eh bien, ce sont des urbains, consommateurs de produits culturels, issus des classes dominantes, issus de la bourgeoisie, en réalité, et on constate de grandes disparités dans les pays européens qui vont traverser les pays mêmes. Vous savez, cette fameuse ligne Saint-Malo-Genève, autrement dit, une ligne qui sépare le territoire national sous un angle nord-est-sud-ouest et qui divise une France plus alphabétisée d'un côté, plus industrielle, et une autre France où l'industrialisation et l'alphabétisation sont plus faibles. En réalité, cette ligne, elle fonctionne dans la plupart des pays européens. Et on voit, finalement, des proximités en termes de pratiques culturelles beaucoup plus grandes entre les Parisiens et les Viennois qu'entre les Parisiens et les habitants des campagnes limousines, au XIXe siècle en tout cas. Que lisent-ils et sous quelle forme ? Eh bien, la forme initiale n'est pas celle du volume, c'est celle du journal, puisque c'est au rez-de-chaussée des journaux, le bas de la première page, que le roman va faire son entrée dans la culture médiatique. C'est une petite porte finalement, mais on va comprendre assez vite que c'est une porte essentielle que d'occuper cette première page des journaux. Notez bien que les journaux à l'époque sont vendus par abonnement. Les chiffres nous sembleraient modestes, 20 000, 30 000 abonnés. Enfin, modestes, en réalité, par rapport aux chiffres de la presse aujourd'hui, ce sont des chiffres qui sont malheureusement plutôt importants. Mais par rapport au fort tirage des volumes au tournant des années 1900, c'est modeste. 1905, on tire un certain nombre d'ouvrages à 100 000 exemplaires. Et parfois des séries complètes à 100 000 exemplaires, donc multipliées par autant de volumes. Les années 1830, 20 000, 30 000 exemplaires vendus par abonnement, et le roman va jouer un rôle central ici dans la façon de capter le lectorat. Quelle est la stratégie des propriétaires de journaux ? Ne jamais faire coïncider le renouvellement annuel des abonnements avec la fin des feuilletons. Vous voulez connaître la suite ? Eh bien, prenez un abonnement pour une année de plus. Voilà comment ça fonctionne, et voilà comment un nouveau modèle, finalement, de littérature, avec ces formes de cliffhanger à la fin. Si vous voulez connaître la suite, bien, venez au prochain rendez-vous. Je crois que c'est la formule que vous avez utilisée aussi tout à l'heure pour vous assurer un public la prochaine fois. Bon, c'est une vieille recette, en réalité. C'est une formule commerciale qui fonctionne extrêmement bien et petit à petit, eh bien, ce roman va prendre beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus d'importance dans les stratégies des journaux. Et pour être sûr de capter des abonnés, il faudra capter aussi les auteurs en vue. Et c'est ainsi que l'on comprend pourquoi Dumas ou pourquoi Balzac vont multiplier leur collaboration avec les journaux de l'époque. On comprend bien qu'on a affaire à un modèle qui est un modèle de l'abondance. On ne lit pas un seul feuilleton, on en lit plusieurs, on a envie de lire la suite, on a envie d'accumuler ces lectures. Mais ce modèle de l'abondance se heurte dans les années 1830 et 1840 à des limites qui sont des limites techniques et des limites financières. Un volume à cette époque coûte à peu près 15 francs, soit le tiers du salaire mensuel d'un ouvrier. Les ouvrages sont édités à 800, 900, 1000, parfois 1200 exemplaires. On ne peut pas noyer le pays avec ces chiffres-là, et même si on ajoute les chiffres des lecteurs abonnés aux journaux, on est très loin de faire le compte. Il va donc falloir inventer d'autres façons de venir chercher sa pitance littéraire. Et les premières lectures vont avoir recours à un système qui laisse de côté l'achat et qui se concentre sur la location. Et c'est comme ça que l'on comprend l'essor des cabinets de lecture dans la France des premières décennies du XIXe siècle. Ces fameuses boutiques à lire, on en compte sous la Restauration à peu près 500 à Paris. Elles ont de très larges horaires d'ouverture, contrairement à la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui à la même époque est ouverte entre 10h et 14h. Eh bien, dans les cabinets de lecture, c'est ouvert toute la journée. On trouve du tabac, on trouve une table, on trouve des plumes pour pouvoir écrire. Autrement dit, on s'y sent assez bien. Et pour 3 francs par mois, ce qui est le prix en fait, de l'abonnement d'un journal, on peut lire autant d'ouvrages que l'on veut. L'apparition de ces nouvelles formes culturelles s'accompagne, comme je l'ai dit, d'une rupture anthropologique dans la façon d'aborder la lecture. Et le modèle classique, souvent discuté, mais bon, je pense qu'on pourra en discuter ensemble tout à l'heure, c'est l'opposition entre une lecture intensive, répétée, limitée à peu de textes, qui va progressivement s'éteindre pour laisser place à une lecture dite extensive, appliqué à un plus grand nombre d'ouvrages et potentiellement à un nombre infini de livres. C'est cette rupture qui est la première, avant la rupture sociale, qui va gagner les classes populaires. C'est d'abord une rupture anthropologique avant d'être une rupture sociale. Autrement dit, les romans populaires ne sont pas d'abord lus par les classes populaires. Ils sont lus par une fraction des classes dominantes. Alors cette rupture, elle est l'aboutissement d'un processus qui s'enracine dans le temps long avec la pénétration de la lecture silencieuse, d'abord réservée aux scribes, réservée au milieu universitaire, avant de devenir, au XIVe et au XVe siècle, une pratique commune des aristocrates laïcs et des lettrés. La trajectoire se poursuit après Gutenberg, inculquant progressivement chez les plus populaires des lecteurs une manière de lire qui ne suppose plus l'oralisation. C'est donc un nouveau rapport à l'écrit, beaucoup plus libre, moins lié à l'organisation physique de la page, qui ici se met en place. Le nouveau lecteur consomme des imprimés nombreux, divers, éphémères, et à partir du XVIIIe siècle, il laisse s'exprimer des sensibilités nouvelles. Il s'autorise, dans ce tête-à-tête intime avec un auteur et avec un livre, l'expression de sentiments nouveaux. Ainsi, la jeune Louise L., dont je vais lire une part du journal intime, la prescription, son journal date des années 1860, il a été repéré par Philippe le Jeune, et ce journal est très intéressant parce que la jeune Louise L. note ses impressions à la lecture d'un ouvrage qui, a priori, n'a pas de quoi lui faire monter la fièvre, ça s'appelle « Le récit d'une sœur », c'est un récit, a priori, extrêmement calme, mais voici comment elle le raconte. Je cite Louise L. Le récit de sa mort est déchirant. J'ai pleuré en lisant ce cri de douleur suprême. Elle cite ici le livre. Je meurs et nous aurions été si heureux. Sa femme protestante abjure au pied de son lit d'agonie et il meurt du plus pur bonheur. Je me trouve un peu exalté. Ce premier volume ne me vaut rien. Je vais lire le second pour me désenthousiasmer quelque peu. Alors, il est évident que ces velléités à se désenthousiasmer sont dérisoires. En est-elle elle-même convaincue ? Je ne le pense pas. Et il faut sans doute lire cette dernière formule comme une antiphrase. Donc, ces velléités pèsent peu face, on le comprend ici, à la volonté à lire la suite, à se projeter, en fait, dans une lecture qui ne se limitera pas à l'ouvrage qu'elle vient de consommer, mais qui va être une suite potentiellement ininterrompue de lecture. Elle se répand en larmes en lisant la suite, mais elle n'est pas pour autant sous l'emprise de ses lectures, et on voit apparaître au fil des pages une forme de distance par rapport aux sentiments qu'elle exprime, lorsqu'elle écrit notamment, à propos de ses émois livresques, qu'elle, je cite, « pleure des douleurs imaginaires » ou quand elle juge étrange une orientation qui est choisie par l'auteur. Louise, elle, ici, parvient à s'enthousiasmer pour ce que l'on appelle un roman édifiant, autrement dit une littérature qui est conçue au XIXe siècle, précisément pour faire pièce à ces romans dont on craint les effets sur leur lecteur. Elle est aussi représentative de la classe sociale, en fait, des premiers lecteurs de cette époque. C'est une jeune fille qui est issue de la bourgeoisie bordelaise et qui est donc parfaite pour illustrer cette pénétration lente, finalement, du roman. Il n'y a donc pas de coïncidence immédiate entre le roman populaire et le public populaire, je l'ai dit tout à l'heure. Les nouveaux lecteurs ne sont pas, avant les années 1860, véritablement issus des classes ouvrières. Et l'Europe alphabétisée va se répartir de façon très inégale. Vers 1870, elle ne concerne que 32% de la population italienne, 15% des Russes, 30% des Espagnols, contre 76% des Anglais, 69% des Français, 81% des Néerlandais. On voit ici l'héritage de l'opposition entre pays catholiques et pays protestants, entre pays industrialisés et pays qui le sont moins, et qui dessine une carte de l'Europe qui est finalement extrêmement composite et où se rapproche plutôt des comportements urbains, quelle que soit la nationalité, et des comportements qui sont ceux des populations rurales du XIXe siècle. Donc face à ces chiffres encore extrêmement bas, on comprend toute l'importance de la culture visuelle qui va accompagner l'essor de ces romans. Ces romans seront toujours diffusés avec des couvertures, enfin toujours non, à la fin en tout cas du XIXe siècle, diffusés avec des couvertures qui sont là pour venir appeler le lecteur, qui donne une partie de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des livres qui sont finalement le moins livres possible qui vont se diffuser au XIXe siècle et qui vont permettre une lecture qui mobilise les sens. D'abord le toucher, le goût, l'odorat, avec un papier qui est extrêmement reconnaissable. C'est une lecture forcément plus charnelle puisque l'ouvrage va être plus petit que d'autres formes d'imprimés, donc on peut s'emparer de cet ouvrage, et puis surtout, il coûte moins cher, donc voilà, l'abîmer n'est pas très grave. C'est aussi une lecture qui mobilise, d'une certaine façon, l'ouïe, avec une littérature qui est extrêmement oralisée. Vous connaissez ce principe du tirer à la ligne, qui permet aux romanciers de gagner plus, ils sont payés à la ligne, donc autant mettre des dialogues les plus courts possibles. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Oui? Non? Enfin, vous voyez, là, hop, quelques lignes, on a gagné plus que dans un long développement. Et donc, je le disais à l'instant, une lecture qui va aussi mobiliser la vue avec cette grande importance des illustrations et notamment des illustrations de couverture. Alors, cette rupture que nous pouvons ici analyser de façon très froide avec les outils de l'historien, d'autres la décrivent dès la fin des années 1830 et l'analyse de ces discours permet de prendre toute la mesure des représentations sociales qui sont associées à l'essor de cette culture médiatique. Sainte-Beuve produit ainsi en 1839 un texte qui restera à la postérité puisqu'il s'intitule « De la littérature industrielle ». Voilà, le mot est lâché par Sainte-Beuve, ce n'est pas de la littérature, c'est de l'industrie en réalité. Et son texte va s'en prendre aux conséquences esthétiques de l'apparition de ce qu'il appelle la littérature écrite à la vapeur. Mais sous la monarchie de Juillet et sous l'Empire, à la Chambre des députés, dans ce que l'on peut appeler la presse officielle, je pense au journal des débats, et dans les églises, surtout dans les églises, lors des prêches, la question de cette nouvelle littérature devient une question moins littéraire qu'une question politique. Comme l'a montré Lise Dumazy, ces débats sont d'abord conditionnés par la question de la démocratisation du journal, perçue comme un moyen de faire vivre l'opinion publique dans l'espace public. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec ce surgissement d'un nombre plus grand dans l'espace public. Peut-on discuter de politique avec tout le monde? Doit-on donner le droit de vote à tout le monde? Enfin, vous voyez, ce sont ces questions-là, en fait, qui agitent le XIXe siècle et qui sont versées, d'une certaine façon, dans le domaine de la culture. Alors, je voudrais que vous vous reportiez à l'exemplier et au premier extrait que j'ai choisi, qui paraît dans le journal des débats. Journal des débats qui a une position parfois difficile à tenir, puisque à la fois on va y critiquer l'essor du roman feuilleton, mais en même temps, pour garder des abonnés, on va aussi accueillir le roman feuilleton. Alors, que dit Alfred Auguste Cuvillier-Fleury, qui est un membre éminent, en fait, hein, de la rédaction du journal des débats? Il parle ici d'Eugène Sue, mais son propos, vous allez le voir, va dépasser le cas Eugène Sue. Je le cite. « La consommation de romans, bons ou mauvais, qui se fait à Paris en province, est prodigieuse. Et comment y suffire, je le répète, comment assouvir cet immense appétit qui attend, la bouche ouverte, sa pitance littéraire de chaque jour, si la denrée n'abondait pas sur le marché, si les pourvoyeurs n'étaient zélés et intelligents, et si, dans la production de la marchandise, l'improvisation rapide et aventureuse n'avait remplacé le travail sérieux et réfléchi, si le nombre ne tenait lieu de la qualité, en un mot, si le roman tel que nos pères aimaient à le lire n'avait cédé la place au roman feuilleton. » Bien, tous les stéréotypes ici sont en place. Le lectorat perçu comme une masse informe, il n'est ici qu'un immense appétit. La littérature devenue marchandise, le terme est utilisé par Cuvillier-Fleury. Le cadencement nouveau de la production de la littérature, qui la distingue précisément des formes du colportage qui s'éteignent à la même époque. Et puis, on voit aussi apparaître cette distinction qui va marquer au fer rouge la littérature populaire, cette distinction entre bonne et mauvaise littérature, entre haute et basse littérature, avec évidemment tous les a priori sociaux qui vont se greffer sur ce discours. Toutefois, c'est plutôt du côté de l'Église que l'on trouve les descriptions les plus nombreuses, mais aussi les plus inquiètes, pas forcément les descriptions de ce que l'Église va appeler les mauvais livres, parce que les clercs s'interdisent en public de les lire, mais des lecteurs. Alors, le thème de la dangerosité des lectures n'est pas un thème nouveau pour l'Église catholique. En réalité, avant même la Révolution française, on voit un certain nombre d'essais qui sont consacrés à la question sur la dangerosité du roman. Il y a un livre célèbre qui s'appelle « L'anti-roman ». Voilà, tout est dit dans le titre. Mais évidemment, après la Révolution française et avec l'essor de ces nouvelles formes littéraires, on voit l'Église qui se sent en concurrence face à des romanciers qui entendent dire le monde, eux aussi, hein, qui entendent donc exercer un magistère qui va être en concurrence avec celui de l'Église. Deuxième extrait, celui de Monseigneur Clausel de Montals, l'évêque de Chartres, et qui est très caractéristique de d'un ensemble de prises de parole que l'on trouve de façon identique dans les pays francophones, ce sont les seuls sur lesquels j'ai travaillé, mais en France, en Belgique, au Québec, on trouve des textes prescriptifs ou proscriptifs, autrement dit, qui disent « il faut lire ces livres, il ne faut pas lire cela », et qui se comptent parfois par centaines. C'est le cas notamment au Québec, on en a dénombré, je crois, 285 pour une période qui s'étend du milieu des années 1840 jusqu'au milieu des années 1860. Que dit Mgr Clausel de Montals quand il parle du lecteur type du XIXe siècle? Un air inquiet, farouche, hautain, a remplacé la modestie et la douceur de ses manières. Sans égard pour ses proches, sans complaisance pour ses amis, fâcheux à tout ce qui l'environne, il est plongé lui-même dans de sombres horreurs et dans une agitation continuelle. Qu'est-il donc arrivé? Il a ouvert, en effet, il a lu ce livre funeste, et dès ce moment, vertu, candeur, calme du cœur et de la conscience, grâces extérieures, bonheur, espérance même, il a tout perdu. Il a lu un livre. Mais l'affaire est suffisamment grave au XIXe siècle pour que ce type de déclaration soit suivi de formes de perquisition dans un certain nombre de villages. On a des comptes rendus de curés qui ont la charge de petites communautés et qui vont visiter en fait leurs ouailles. Bon, ce livre-là n'est pas bon, celui-là tu peux le garder, et on remplace les mauvais livres par les bons. Au Québec, l'affaire ira beaucoup plus loin, et suite à ce type de déclaration, on constate des destructions de librairies. On brûle des stocks de mauvais livres. Je pense qu'on pourrait tous s'attaquer. On est dans le bon quartier, finalement, à Paris. On pourrait tous aller chez Gibert et demander à ce que l'on rase l'ensemble du rayon littérature, puisque, vous voyez, c'est dangereux quand même. Les romans ont évidemment des effets. Donc, au-delà de ces cas, ces représentations totalement apocalyptiques vont légitimer une action militante, même époque, 1840-1860, de la part de l'Église, qui va mettre en place un certain nombre de bibliothèques qui, elles, vont diffuser ce que l'Église considère comme des bons livres. On va également mettre à contribution l'index des livres interdits, qui, a priori, n'a rien à voir avec la littérature, mais qui va, au XIXe siècle, condamner l'ensemble des lettres françaises. Et un certain nombre de groupes de pression, c'est vrai des catholiques en France, mais c'est vrai aussi d'un certain nombre de groupes de pression anglicans en Angleterre, vont exercer une forme de lobbying auprès des pouvoirs publics pour limiter la diffusion des ouvrages dans un certain nombre de pays, parfois en faisant le coup de poing. C'est le cas de l'abbé Bethléem, auquel Jean-Yves Mollier a consacré un très bel ouvrage cette année, qui, en 1920-1921, décide, sur les boulevards parisiens, d'aller déchirer lui-même les journaux qu'il juge impies pour forcer les pouvoirs publics à se positionner. Il n'attend qu'une chose, c'est être arrêté et être jugé, parce qu'il veut faire émerger le débat. Vous comprenez donc que c'est une représentation très bovariste, en réalité, du lecteur, qui domine à cette époque, autrement dit, un lecteur fragile, extrêmement fragile, et d'autant plus fragile qu'il s'agit d'une femme, d'un enfant ou d'un ouvrier, et donc il faut le protéger, même à son corps défendant. L'arsenal de protection ne va pas se limiter à l'action zélée des bibliothécaires catholiques, puisque dans l'ensemble des pays européens, on voit des législations qui ne sont pas des législations très contraignantes, mais des législations dissuasives, et qui font en réalité peser le risque, non pas sur le consommateur, rarement sur l'auteur, mais sur celui qui produit les livres, autrement dit, celui qui prend un risque financier. Ce sont plutôt des éditeurs qui sont condamnés, au-delà des grands procès littéraires que l'on connaît, et qui touchent plutôt des auteurs que nous, on considère comme les auteurs légitimes. Les auteurs populaires sont assez rarement inquiétés. Les éditeurs populaires, oui. Donc, ils y regardent à deux fois avant de mettre sur le marché un ouvrage qui pourrait heurter les bonnes mœurs parce qu'ils prennent un risque qui est un risque financier. Et c'est une censure qui, finalement, fonctionne beaucoup mieux qu'une censure a priori qui, de toute façon, dans cette nouvelle ère de l'abondance du roman, est totalement impossible à mettre en place. Alors, dans ce contexte de liberté et de contraintes nouvelles, d'abondance sous surveillance, mais une surveillance un peu imparfaite, dans ce contexte d'une littérature devenue marchandise, cas de singulier, l'expérience de la lecture en régime médiatique, et notamment au XIXe siècle. Seconde question qui vient immédiatement à l'historien, quelles sources sont à disposition pour discuter de cela et pour vous le restituer ? En réalité, la lecture est une activité silencieuse et les lecteurs laissent évidemment peu de traces. On trouve les archives des bibliothèques, elles vont donner peu de choses, des registres de lecteurs, parfois les registres avec le nombre de prêts, donc on peut savoir qui emprunte quoi, mais c'est extrêmement rare en réalité. Des manuels de bibliothéconomie qui fleurissent autour des années 1830-1840 et qui vont avoir quelques pages dédié à la description des lecteurs populaires, mais c'est une source externe. On va trouver également les inventaires après décès, Tant que le livre a une valeur financière assez importante, on le note dans les inventaires après décès, donc on sait quels livres sont présents chez quel ouvrier, mais quand le livre devient moins cher, eh bien on ne note plus les ouvrages dans les inventaires après décès. Il nous reste les lettres dans les archives des romanciers. En réalité, elles sont très peu nombreuses, j'y reviendrai en conclusion. Il nous reste les journaux intimes que l'on a mobilisés tout à l'heure. Il reste les entretiens. Certains ont été menés dans les années 1970-1980 par Anne-Marie Thiès, qui interrogeait des lecteurs de la Belle Époque, mais aujourd'hui, évidemment, ils ont disparu. Il reste, enfin, les gravures, les caricatures, un certain nombre de tableaux sur lesquels j'aimerais porter votre attention maintenant. Alors, j'ai choisi trois illustrations de nature un peu différente. La première est une gravure. Les deux suivantes sont des peintures impressionnistes, Degas et Renoir, et tout illustre des scènes de lecture. Il est très difficile de choisir ces illustrations, elles sont extrêmement nombreuses. Un de ceux qui a le plus peint, dessiné, gravé des lecteurs, c'est Daumier. Je ne l'ai pas choisi ici, mais il y a des centaines et des centaines de dessins qui ont été exécutés par Daumier sur des scènes de lecture. J'ai choisi ces trois images parce qu'elles montrent une progression à l'intérieur de la représentation picturale de la lecture. Comment comprendre la première ? La bonne éducation. C'est une scène collective que l'on voit ici, une scène collective de lecture. Alors, ma photocopie n'est pas parfaite. C'est là où finalement la projection avec un PowerPoint peut être jugée utile, mais uniquement dans ces conditions. Donc une scène collective de lecture où on voit une jeune fille qui finalement, éclairée par cette lumière qui vient de la fenêtre, apporte la bonne parole à ses parents que l'on peut imaginer, eux, être illettrés. Vous remarquez que la jeune fille, certes, elle doit apprendre à lire, mais vous voyez à ses pieds des pelotes de laine. Autrement dit, bon, ça reste une jeune fille. D'accord, elle sait lire, mais il faudra aussi qu'elle puisse se consacrer à d'autres choses plus sérieuses pour une jeune fille. Deuxième illustration, c'est toujours une scène collective que Degas nous propose ici, mais l'attention n'est pas portée sur la lecture qui est en train de se faire. On a une femme qui, dans une salle de danse, est en train de lire le petit journal, le grand journal populaire qui va s'épanouir à partir des années 1860 avec des tirages qui sont supérieurs aux millions d'exemplaires. C'est pour ça que je vous disais que le journal est essentiel, en fait, pour comprendre cette histoire. Elle lit dans l'indifférence générale. Autrement dit, à cette époque-là, si on suit Degas, on étend un petit peu... je force un peu ma conclusion ici. Mais la lecture n'est plus un enjeu aussi fondamental, c'est devenu une activité banale. Et dernière étape, la lecture pour Pierre-Auguste Renoir, c'est non seulement une affaire qui se banalise, mais c'est une affaire qui est avant tout une affaire personnelle. La jeune femme qui lit nous tourne ici le dos, elle est enfermée dans sa propre lecture et elle n'en fait pas une affaire qui est une affaire collective. Alors il ne faut pas se laisser abuser par ces représentations picturales, puisque l'histoire sociale de la lecture nous pousse à des conclusions qui sont des conclusions qui peuvent entrer en contradiction avec ce que nous montrent les peintres de la fin du XIXe siècle. La lecture en régime médiatique, contrairement à ce que nous dit Renoir, contrairement à ce que disent les ennemis de la lecture populaire que j'ai cité tout à l'heure, n'est jamais un exercice solitaire. Elle n'est jamais un exercice solitaire puisque l'apprentissage même de la lecture se fait de façon collective. Il est même pris en charge par les États, les mêmes qui autorisent la liberté de la presse, quelques années plus tard, mettent en place également l'obligation scolaire. Et dans l'obligation scolaire, qu'est-ce que l'on trouve comme fondement ? Évidemment, apprendre à lire. Le XIXe siècle est aussi le grand siècle de l'organisation de bibliothèques populaires. Le terme a disparu aujourd'hui, on ne parle plus de bibliothèques populaires. C'est un terme que l'on utilise au XIXe siècle avec l'idée que l'on va viser certaines catégories de lecteurs et le faire de façon militante. La Ligue de l'enseignement crée des bibliothèques populaires. Les organisations catholiques créent aussi des bibliothèques catholiques populaires qui sont les ancêtres des bibliothèques pour tous que certains d'entre vous connaissent peut-être aujourd'hui. Elles n'ont pas tout à fait la même fonction au XIXe siècle, beaucoup plus prosélytes. Elles s'accompagnent d'exercices de distribution d'ouvrages, de lecture collective, d'appréhension du lecteur à qui on assigne un certain nombre d'ouvrages et qui n'a pas le choix de ses propres lectures. C'est un système qui est extrêmement différent, mais qui place le lecteur dans un collectif. Plus tard, dans l'entre-deux-guerres, on verra l'essor des clubs de lecture. Là encore, activité collective. Et toutes les sources, celles que j'ai citées tout à l'heure, documentent sans cesse une approche collective de la lecture. Dans les journaux des jeunes filles que j'ai cités tout à l'heure, que trouve-t-on ? Eh bien, on trouve les indices des personnes qui vont échanger les livres, avec qui on va discuter des ouvrages. Et parfois, en prenant à revers la prescription qui va être donnée par telle ou telle autorité. Des livres plutôt interdits aux jeunes filles, eh bien, par l'entremise d'un frère, d'un cousin, d'une mère qui va vouloir ouvrir l'esprit de sa fille, on va les retrouver entre les mains de cette jeune fille. Les sources témoignent aussi d'échanges extrêmement nombreux autour des lectures, dans les trains, dans les rues, dans les librairies, dans les ateliers, où parfois les ouvriers mettent en place des lectures collectives. C'est le cas notamment d'ouvriers britanniques ou d'ouvriers de la porcelaine. Je citais Limoges tout à l'heure, j'y reviens. L'aristocratie du monde ouvrier se paie des lecteurs pour qu'on leur fasse la lecture à l'atelier. Là encore, ouvrage, manière collective d'appréhender la littérature. Achat collectif également de la littérature. Lorsque Adèle Hugo décrit à son mari le lancement des Misérables, eh bien, elle décrit des ouvriers qui se cotisent à raison de 20 sous chacun pour acquérir les volumes. Les 12 francs dans le sac, c'est ce que dit Adèle, on achète les Misérables, qu'on tire au sort et le gagnant devient possesseur dès que chacun l'a lu. Échange également avec les auteurs mêmes et on trouve à la Bibliothèque de Paris des lettres assez intéressantes envoyées à Eugène Sue de lecteurs qui disent « J'ai une suggestion pour votre personnage, je crois qu'il devrait plutôt choisir telle voie. » Enfin, vous voyez. Donc le lecteur n'est jamais totalement isolé, donc le risque dont témoignent ici les exemples que nous avons lus renvoie à d'autres peurs, d'une certaine façon. Surtout, on remarque la très grande diversité des lecteurs de fiction populaire. D'abord parce que les éditeurs vont inventer sans cesse de nouvelles catégories de lecteurs. On commence, à la Belle Époque, à faire une distinction très nette entre la lecture, les ouvrages pour les femmes, pour les hommes, pour les jeunes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de la littérature pour adolescents, etc. etc. On peut scinder de cette façon le lectorat et donc multiplier les appartenances sociales auxquelles les lecteurs vont eux-mêmes souscrire et vont s'inscrire avec cette appartenance sociale dans la culture médiatique. Et puis enfin, on trouve des lecteurs qu'on n'imaginait pas dans cette culture médiatique. Les surréalistes, par exemple. Que lisent les surréalistes à l'été 1914 ? Comme tout le monde, ils lisent Fantômas. Et Apollinaire écrira dans le Mercure de France, le 16 janvier 1914, la lecture des romans populaires d'imagination et d'aventure est une occupation poétique du plus haut intérêt. Pourquoi ? Parce que cette littérature, d'une certaine façon, pour les surréalistes, vient renverser les codes habituels et leur donne une nouvelle façon d'appréhender un champ littéraire qu'ils trouvent trop figé. C'est révolutionnaire de dire ça en 1914. C'est évidemment une provocation. Mais on peut voir des lignes de fuite dans le monde des arts, je pense notamment au pop art, avec cette utilisation finalement de formes très populaires pour les transformer en autre chose. Il y a également des lecteurs professionnels, ceux qui critiquent. Il y a également les censeurs, je pense aux censeurs de l'index Librorum Prohibitorum, qui sont bien obligés de lire les romans qu'ils condamnent. Donc autrement dit, on a une variété extrêmement grande de lecteurs, pas forcément là où on les attend, et qui donne un tableau beaucoup plus varié, beaucoup plus changeant que les représentations des impressionnistes. Michel Zinc, dans nos échanges électroniques préalables à cette séance, m'avait demandé de réfléchir à ce que les lecteurs représentaient pour les romanciers du XIXe siècle. J'avoue que, à travers les archives que j'ai pu dépouiller, elles me semblent modestes à l'échelle du phénomène. J'ai travaillé sur quelques auteurs, sur quelques sociétés d'auteurs, mais finalement, quand on voit la masse de la production, c'est peu de choses. Mais j'ai l'impression que ces lecteurs, souvent, représentent peu de choses. Quelques lettres conservées, en réalité plutôt dans les périodes de creux, comme si les auteurs cherchaient à se donner du courage et au moment où ils vendent un petit peu moins, garder les lettres de soutien qui le retiennent. Marcel Alain, par exemple, l'auteur de la série des Fantômas, finit par s'étonner à la fin de sa vie d'avoir face à lui des lecteurs, je le cite, « pas populaires du tout ». Il est vrai que ses ouvrages dans les années 50 ne sont plus tirés à 100 000 exemplaires, mais à 5 000. Les lecteurs du roman populaire dans les années 50 et 60 sont déjà des gens qui peuvent les lire au second degré, qui voient un autre intérêt ou qui décident d'en faire une étude académique comme j'ai pu le faire. Délibérément, j'ai peu parlé des auteurs populaires ou des caractéristiques esthétiques de leurs œuvres. Je suis historien, d'autres le feraient bien mieux que moi. Et je dois avouer que la perspective que j'ai choisie tend à écraser une périodisation du XIXe siècle qui en réalité est beaucoup plus fine s'agissant de la culture de masse. Il y a de grandes différences entre les années 1830 et la fin du XIXe siècle. Bon, il reste donc beaucoup de questions en suspens sur lesquelles je vous invite à revenir au moment des questions qui peut s'ouvrir désormais. Merci.